Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute.
Bienvenue dans cette nouvelle chronique Happy Work de la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler mon sujet « Conflit climatique ». Vous pensez sûrement que je vais vous parler du climat et de l'écologie. Eh bien, pas tout à fait. Il se trouve qu'en entreprise, il y a une problématique qui revient très régulièrement, qui est celle du réglage de la température de la climatisation. Ah oui, là le sujet vous parle déjà davantage. Allez donc m'expliquer pourquoi la température des bureaux, pourtant réglée selon des normes classiques autour de 20 degrés, suscite toujours autant d'échanges, parfois vigoureux. Vous avez le cas de la personne installée juste à côté d'une grande baie vitrée et qui meurt de chaud dès que le soleil diffuse ses rayons cuisants. Le cas d'une autre, à l'ombre bien entendu, et plutôt du genre frileuse. Celui qui a toujours trop chaud et qui est en chemisette même en plein hiver. On trouve aussi la place maudite de la personne assise sous la bouche de ventilation ou juste à côté de la sortie d'air. Il y a bien des années que la climatisation existe et que les open space aussi, mais personne n'a jamais réussi à régler ce problème existentiel. Certains ont essayé de trouver leur propre solution, du type changer discrètement le niveau de température quand les collègues sont au café, ou encore subtiliser la télécommande de réglage de la climatisation. Boucher la sortie de ventilation avec du papier toilette aussi. Les instincts les plus vils peuvent ainsi voir le jour quand il s'agit de gagner la bataille pour ou contre la climatisation. Pourtant, le bien-être au travail, c'est aussi veiller au confort physique de ses salariés. Et il se trouve que les études montrent que la température des locaux fait partie des éléments parmi les plus perturbateurs de ce confort. Une étude a même montré que 37% des salariés pensent que la température ambiante a pu avoir un impact sur leur état de santé dans les 6 derniers mois. Et plus important encore, quelques degrés supplémentaires en plus ou en moins peuvent avoir un véritable impact sur la productivité, puisqu'il a été prouvé que lorsqu'on passait de 20 à 25 degrés dans un bureau, les employés faisaient environ 44% de fautes de frappe en moins et que le rythme de frappe augmentait de 150%. Des chercheurs ont aussi mené une très scientifique étude qui montre que le cerveau des femmes fonctionnerait mieux à des températures plus élevées, entre 21 et 27 degrés. Les meilleurs résultats pour les hommes sont obtenus pour des températures plutôt inférieures à 21 degrés. Vous comprenez donc pourquoi les femmes ont la réputation d'être frileuses alors qu'elles n'aspirent juste qu'à être plus performantes. Un consensus a donc placé à 24 degrés la température idéale dans des bureaux où travaillent à la fois des hommes et des femmes pour que la performance justement soit à son meilleur niveau pour tout le monde. Le Code du travail, cependant, ne donne aucune indication en ce qui concerne la température idéale d'un bureau. Il impose néanmoins à tout employeur de respecter certaines dispositions afin d'assurer que le confort de ses salariés soient respectées et de les protéger des risques liés au froid et aux fortes chaleurs. Il faut savoir également que la climatisation est potentiellement dangereuse pour la santé si elle est mal entretenue, puisque c'est un mélange d'eau stagnante et d'air qui peut être un véritable nid à bactéries. Je vous rappelle à ce titre le cluster Covid, il n'y a pas très longtemps, d'un restaurant en Chine, en raison de son système de ventilation défectueux qui avait rendu tout le monde malade. Il existe aussi un second risque lié à la différence de température créée par le système de ventilation qui fait qu'en plus de nombreux rhumes, elle peut entraîner des contractures musculaires ou des torticolis pour les personnes sujettes à ce genre de traumatisme. On conseille donc, en cas de forte chaleur, une température comprise entre 5 et 8 degrés en dessous de la température extérieure. Mais le problème, c'est que la guerre de la clim jette un froid parfois polaire entre les collaborateurs et peut devenir assassine pour les relations de bureau. Ne faudrait-il donc pas alors se débarrasser de la climatisation ? Il est possible en fait d'utiliser des alternatives moins coûteuses en énergie, comme par exemple des vitres teintées, des toitures végétalisées ou peintes en blanc, ou encore la mise en place de simples stores. Mais c'est avant tout la conception des bâtiments, avec une bonne isolation liée à une bonne orientation, qui est déterminante pour le niveau de température en intérieur. Vous le voyez donc, le bien-être au travail peut revêtir des formes plus sournoises et devenir un vrai sujet de discorde entre les salariés. Il est évident que la solution la plus logique est celle de la courtoisie et du choix démocratique entre tous. Je vous laisse régler votre chauffage pour écouter confortablement et attentivement mes collègues de l'émission Patchwork et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Happy Work.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa de Ebel. En ce 335e jour de l'année 2020, nous célébrions, il y a une semaine, l'anniversaire de la publication de L'origine des espèces par Charles Darwin, le 24 novembre 1859. Autre anniversaire, celui de la découverte de Lucy, le fossile de l'espèce Australopithecus afarensis, découvert en 1974 sur le site d'Adar, en Éthiopie. Et voici le programme de cette nouvelle émission de la saison 2 du Patchwork. Je vais, comme d'habitude, répondre au dernier quiz. Je vous propose ensuite une revue de presse économique et financière, en cette période quelque peu complexe. Et pour finir, je vous proposerai un nouveau quiz, le quiz de la semaine, comme le veut la tradition. C'est parti pour une nouvelle pause dans la Casa de Ebel avec la réponse au dernier quiz que je vous avais posé. Vous avez été nombreux, comme toujours, à me fournir la bonne réponse. Je vous rappelle tout d'abord la question. Quel est l'os le plus petit du corps humain ? Je vous donnais également un indice qui a sûrement aidé les cavalières et les cavaliers auditeurs de cette chronique. Il s'agit de l'étrier. Et si, comme vous avez l'occasion de voir un schéma de l'oreille moyenne, vous remarquerez que sa forme ne peut prêter à confusion. Mais au fait, quelles sont ses dimensions ? Il mesure entre 2,6 et 3,4 mm de long et pèse entre 2 et 4,3 mg. Quelle précision! Pour vous donner un ordre de grandeur, vous voyez un grain de riz? Eh bien, l'étrier est aussi grand que ce dernier. Tout cela est très intéressant, mais vous vous demandez sûrement, et je me suis posé premier la question, à quoi sert ce petit os? Associé au marteau et à l'enclume, deux autres os de l'oreille moyenne, ils transmettent les vibrations à l'oreille interne, qui les traduit en impulsions nerveuses, et qui les envoie ensuite au cerveau. Continuons cette chronique par une revue de presse économique et financière, au cours de laquelle nous allons parler également d'écologie, de sociologie et de sciences. Commençons donc cette revue de presse par la question que beaucoup de personnes se posent, mais que vais-je faire de mon argent, de mon épargne, en 2021 ? Morgan Stanley, l'un des plus gros brokers américains, vient de publier une étude pour 2021, et ce bureau d'études mise sur le marché actions en 2021. Effectivement, ces analystes s'attendent à une reprise économique en V. Alors, les reprises économiques peuvent être en V, W, peuvent être en L, ce qui peut être potentiellement une catastrophe, voire en U. Pour Morgan Stanley, la chute est très forte, mais le rebond pourrait être d'autant plus important. Alors, dernièrement, on m'a parlé aussi d'une reprise économique en racine carrée, à voir qui aura raison. Néanmoins, l'hypothèse de départ de Morgan Stanley est de dire que la reprise économique sera rapide. Morgan Stanley déclare dans son étude qu'une conjonction d'éléments offre un environnement favorable pour les actions et le crédit en 2021. Donc, dans une récente note, l'équipe d'analystes de la banque recommande aux investisseurs de surpondérer les actions et les obligations d'entreprise par rapport aux liquidités et à la dette publique, mais également de vendre le dollar. Effectivement, si l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers depuis quelques temps, la Bourse de Paris a connu deux moments très intéressants, que ce soit après l'annonce du vaccin qu'aurait trouvé Pfizer et ensuite l'annonce du laboratoire Moderna, l'indice parisien a gagné 7,5% et 1,7% pour franchir à nouveau les 5500 points. Donc ces annonces sur un vaccin expérimental contre le coronavirus jugées paraît-il très efficaces, attendons de voir comment se passera la demande d'autorisation de mise sur le marché, laissent entrevoir un espoir important, intéressant sur les marchés actions. Néanmoins, du fait de la COVID-19, le taux de défaut des entreprises a doublé sur un an. Et là, c'est Moody's, une assez célèbre agence de notation, qui nous informe que le nombre de défaillances a doublé au sein des entreprises qu'elle note à travers le monde. Ce n'est pas uniquement en Europe, aux États-Unis, c'est sur l'ensemble de la planète. Le souci, c'est que ce taux et ces défaillances auront également un impact sur le futur des performances économiques des différentes économies, donc potentiellement un impact sur les marchés financiers. Deuxième bémol à l'analyse plutôt positive de Morgan Stanley et aux performances actuelles des marchés financiers, un titre que j'ai vu et qui m'a interpellé, mais qui coule sous le bon sens, c'est qu'une récession se dessine inévitablement, pour l'Union européenne. L'avenir s'assombrit un peu pour l'Europe, avec une chute de 7% de l'activité au sein de l'Union européenne et des dettes qui s'envolent du fait de la pandémie, la récession semble inévitable. Alors je vous rappelle que récession, la définition économique de la récession est qu'il faut 2 trimestres de baisse du PIB. Je ne parle pas de ralentissement du PIB, je parle de baisse de diminution de la création de valeur d'un trimestre sur l'autre. En France, la Commission imagine que le PIB devrait chuter à peu près de 9,4% sur l'année, et la dette, qui, rappelez-vous, à l'époque des critères de Maastricht, lorsqu'il a fallu sélectionner les pays qui devaient rentrer dans la zone euro, le ratio dette sur PIB devait être inférieur à 60%, ce qui est arrivé pour la totalité des pays, à l'exception de l'Italie et de la Belgique, mais on les a quand même fait rentrer. On ne pouvait pas faire l'Europe sans l'Italie, qui est un des pays fondateurs de l'Union européenne, voire même de ses ancêtres. Aujourd'hui, la dette française, qui était un tout petit peu en dessous de 60%, aujourd'hui friserait presque les 120% avec à peu près 115,9%. Continuons un petit peu cette revue de presse en parlant écologie, changement climatique, impact autour du changement climatique et inquiétude des financiers sur le changement climatique, les risques qu'il pourrait y avoir pour leurs investissements, pour quelques-uns de leurs investissements. Dans son rapport trimestriel sur la stabilité financière, la Banque centrale américaine a pour la première fois, et ça c'est juste énorme, c'est pour la première fois, identifié l'immobilier comme un exemple de la manière dont le changement climatique fait courir un risque à la stabilité financière mondiale et affecte par extension les marchés financiers. Alors la Fed déclare « Il est d'une importance vitale de reconnaître le fait que le changement climatique pose des risques importants. » C'est plutôt une bonne chose qu'ils acceptent ou qu'ils comprennent enfin qu'il y a potentiellement un risque avec le réchauffement climatique. Alors, continue, pour étayer ses propos, l'institution, donc la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui est quand même un organisme excessivement puissant. Donc la Fed précise que certaines propriétés résidentielles et commerciales seront soumises à des dangers aigus, tels que les ondes de tempête associées à la montée du niveau de la mer et à des ouragans plus intenses et plus fréquents. Tout cela peut à terme poser des risques pour les prêts immobiliers, les titres adossés à des créances hypothécaires, les détenteurs de ces titres et de ces prêts, et la rentabilité des entreprises non financières utilisant ces propriétés. En Europe, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a une même prise de conscience de la part de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Cette dernière a inclus le changement climatique dans la stratégie globale de la Banque centrale pour les années à venir, notamment par l'achat d'obligations vertes destinées à financer des projets environnementaux. On pourrait dire « mieux vaut tard que jamais ». Espérons que les financiers réagissent un petit peu plus rapidement à l'avenir et de façon un petit peu plus intense au niveau de leurs investissements, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Banque centrale qui achète des obligations vertes qui sont assez rares, et en plus je pense qu'il faudrait quand même vérifier le côté vert de ces obligations pour être certain et certaine que ce ne soit pas du je ne sais pas quoi washing, juste pour faire bien et se donner bonne conscience. Enfin, pour finir cette revue de presse, je suis tombé sur un chiffre colossal. Si je vous dis 427 milliards de dollars par an, ça vous fait penser à quoi? Alors c'est peut-être le salaire d'un sportif, mais alors c'est un sportif quand même très 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 bien payé. Alors juste pour faire un équivalent, imaginons que vous ayez besoin d'embaucher 34 millions d'infirmières et d'infirmiers. Bon voilà, c'est le coût annuel de salaire annuel de 34 millions d'infirmières et d'infirmiers. Mais surtout, c'est le montant assez impressionnant de l'évasion fiscale au niveau mondial. Alors c'est le constat que fait l'ONG Tax Justice Network, qui a étudié l'évasion fiscale pays par pays. Alors elle s'appuie notamment sur les données des dépôts bancaires qui sont disponibles, donc ça ne peut être qu'une estimation. Ce rapport, qui se présente comme le premier du genre, tente d'éclairer sur la provenance et la destination des flux financiers réputés pour leur opacité. Donc l'évasion fiscale dans le monde, quel que soit le fait d'entreprise ou de particulier, coûte ainsi très cher aux États. Alors cette somme faramineuse, 245 milliards sont l'œuvre d'entreprises, et accrochez-vous bien, 182 milliards de la part de particuliers. Alors, on ne va pas pouvoir montrer du doigt personne, mais 182 milliards par des particuliers, je dois vous avouer que vous et moi ne sommes pas touchés par cet effet de mode de l'évasion fiscale. Semble un petit peu difficile pour un quidam, monsieur, madame, tout le monde, de pouvoir faire de l'évasion fiscale. Néanmoins, 182 milliards représentent juste des sommes colossales. Imaginez juste que cette somme soit réintégrée. J'imagine que la pauvreté dans le monde et deux, trois autres petits soucis pourraient pas être réglés en claquant des doigts. Mais ces sommes pourraient aider, peut-être, à améliorer deux, trois petites choses sur notre planète. Enfin, le rapport explique que les multinationales déplacent l'équivalent de 1380 milliards de dollars de bénéfices dans des paradis fiscaux, mais également vers plusieurs pays riches qui n'appartiennent pas toujours à la liste noire, comme celle établie par l'Union européenne. Dans le cas des particuliers, ces derniers placent au total plus de 10 000 milliards d'actifs financiers hors de leur pays de résidence fiscale. Alors c'est pas grave, on peut toujours investir à l'étranger, c'est pas un souci. Le souci est que ce soit investi de façon opaque et que ça permette, enfin que ça évite le paiement d'impôts ou de taxes qui permettent à la solidarité nationale de certains pays, voire notamment en France, de pouvoir jouer à plein. Et pour finir cette parenthèse inattendue, je vous propose un quiz science. Mercredi dernier était célébrée la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Pour rendre hommage à toutes les femmes, je consacre ce quiz à l'une d'entre elles, dont la vie fut incroyable. Rendez-vous compte qu'elle fut la première femme nommée chef du département d'astronomie de l'université d'Harvard en 1956. Et encore mieux, à 25 ans, en 1925, elle osa remettre en cause le consensus scientifique très masculin, je vous rappelle, en envisageant que les étoiles soient composées d'hydrogène. Connaissez-vous son nom ? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la réponse. C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute et attends vos réponses au quiz de la semaine. À la réalisation, Yanis, qui m'accompagne au cours de cette nouvelle saison.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vais vous lire aujourd'hui deux nouveaux chapitres du roman de Frédéric Coudron « La suerte des matards », un polar captivant, érotique et taurin. 15 août 2018, commissariat de Dax. Manuel Ortega n'avait pas dit un seul mot depuis son arrestation dans le patio des Caballos. Il restait fier et digne. José Ramón, l'apoderado du Matador, avait rejoint le commissariat aussi vite que possible pour comprendre ce qui se passait. Le torero était attendu dans l'après-midi à Saragosse pour une corrida, un juste contrat à honorer impérativement. Mais José Ramón ne tarda pas à comprendre que la capitale de l'Aragon pourrait attendre le maestro très longtemps. Homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne, caché derrière une barbe en collier et des lunettes épaisses, le commissaire Pietri n'était pas du genre à plaisanter et remit aussitôt sec à sa place l'impresario qui faisait du tapage. « Monsieur, je vais vous demander de quitter le commissariat. » Je ne partirai pas sans savoir ce qui se passe. Nous avons un contrat à 300 000 euros cet après-midi. Pourquoi avez-vous arrêté Monsieur Ortega ?
Pour meurtre.
Pour meurtre ? Mais le meurtre de qui ? L'apoderado hurlait et gesticulait dans le hall du commissariat. Pietri le fusilla du regard. Monsieur Ramón, je vais être plus précis. Soit vous dégagez le plancher, soit je vous fais arrêter pour trouble à l'ordre public. C'est clair ?
José Ramón n'insista pas. Il sortit du commissariat, complètement désemparé.
Juin 2018, Mexico. Situé dans la colonia Noche Buena, au sud de la ville, dans ce qu'on appelait la cité des sports, à quelques mètres de la Avenida de los Insurgentes, les arènes de Mexico étaient les plus grandes du monde avec leurs 52 000 places et portaient donc très bien leur nom de Plaza de Toros Monumental. Pour y accéder, avec Paco, nous avions pris la ligne 7 du métro et étions descendus à la station San Antonio. Nous étions arrivés tôt car il n'existait pas de système de réservation des billets pour la corrida. Je fus surprise par l'immense foule qui formait une file ininterrompue devant les guichets. S'y pressaient hommes et femmes de conditions sociales très différentes. Des jeunes, des vieux et même des gamins. Je fus choquée. Comment pouvait-on amener ces enfants à un spectacle aussi barbare ? Il y avait de quoi les traumatiser à vie. Quand nous passâmes devant la statue de bronze baptisée Chicuelo, un matador effectuant une passe, mon sang se glaça. J'étais persuadée de m'évanouir au premier taureau blessé. J'adorais les animaux, je ne supportais pas de les voir souffrir, encore moins inutilement. Paco, lui, était ravi. Lorsqu'enfant, il vivait encore en Espagne, son père l'avait amené voir une corrida à Pampelune. Il en gardait un souvenir agréable, et depuis, il assistait fréquemment à des spectacles taurins. De son propre aveu, il n'était pas un très grand spécialiste, mais il s'y connaissait. Il tentait de me réconforter comme il pouvait. Nous avions déjà travaillé ensemble, notamment sur l'affaire du tueur de l'Est parisien. Je l'aimais bien. La cinquantaine, il attirait immédiatement la sympathie. Toujours souriant, de petite taille, il avait ce qu'on appelle une bonne bouille et un humour à toute épreuve. Il était souvent moqué dans le milieu à cause de son accent et de son homosexualité. Il s'en fichait royalement. Tout semblait glisser sur lui sans aucune conséquence. C'était le seul point positif de cet enfer, l'avoir comme partenaire de tournage. Paco, tu ne voudrais pas y aller seule, je ne me sens pas capable d'assister à ça. Tu oublies que tu dois interviewer Ortega dans le patio. C'est pas mon job, ça je ne sais pas faire. Je pourrais faire l'interview et ressortir. Toi, tu prendrais quelques images de la corrida et basta. Lise, franchement, si tu veux faire un bon reportage, je pense que tu dois assister au moins une fois à une corrida. Il avait raison. C'était un excellent professionnel. J'avais un peu honte de me comporter comme un gosse qui recule au dernier moment avant de monter dans un manège à sensations. Paco ne me jugea pas. Je sentais qu'il avait de la peine pour moi. À côté de la billetterie, dans un stand éphémère, on vendait des goodies en rapport avec la feria. « Regarde, Lise, il y a des éventails. » Paco me confia sa caméra et quitta la file en direction du stand. Il acheta un éventail rouge et noir, un peu kitsch, et me rejoignit. « Tiens, quand ça deviendra trop insoutenable, mets ça devant tes yeux en faisant semblant de t'éventer. » Je ne pus m'empêcher de rire. L'idée n'était pas mauvaise. Au fond, je n'étais pas obligée de tout regarder. Je me faisais peut-être des montagnes pour rien. L'espace d'un instant, je fus soulagée, mais aussitôt, le stress revint, de façon incontrôlable. Nous arrivâmes enfin au niveau des guichets. Paco commanda deux places. Le tarif variait de 60 à 600 pesos, selon l'exposition à l'ombre ou au soleil. « Sombra », indiqua mon collègue, payant le prix le plus fort. La journée était ensoleillée, mais pas caniculaire. « Pourquoi as-tu pris à l'ombre ? Tant qu'à faire, j'aurais bien aimé bronzer. En plus, c'est plus cher, ils sont barges. » Il sourit. « À l'ombre, on voit beaucoup mieux, on n'est pas gêné par le reflet du soleil. C'est pour ça que c'est plus cher, Lise. » « Ah, je vois. Tu veux vraiment que je ne loupe rien du spectacle ?» Caméra harnachée à l'épaule, Paco se dirigeait déjà vers le patio, ce lieu qu'il m'avait décrit comme étant l'entrée des artistes. Munis de nos billets et de notre carte de presse, nous obtîmes l'autorisation d'y pénétrer, jalousés par une horde d'aficionados qui auraient tué père et mère pour jouir du même privilège. Là, nous pénétrâmes dans un lieu surréaliste. Des chevaux immenses, montés par des hommes en costumes chapeautés, faisaient les 100 pas. Les bêtes étaient recouvertes d'une sorte de couverture épaisse, comme une protection. Paco m'éclaira sur ce point. « C'est le caparazón. Ça sert à quoi ?»« À protéger le cheval lors de la charge du taureau. Quoi »« Quoi? Le taureau fonce sur les chevaux ?» Oui, pour permettre aux picadors qui les montent de piquer le taureau lors du premier tercio. Tercio. Dans une corrida, il y a 3 tercios. Le tercio de pique avec les picadors. Le tercio de banderille avec les banderilleros. Pendant ces 2 premières phases, le but est de faire saigner le taureau pour le fatiguer ou le rendre plus combatif. Et enfin, le tercio de muleta, qu'on appelle aussi la faena et que seul le matador exécute. C'est quoi la muleta? La cape rouge du matador. Tiens, sais-tu pourquoi sa cape est rouge? Pour exciter le taureau? Ah non, pas du tout. Il faut savoir que le taureau ne distingue pas les couleurs, il voit en noir et blanc. Donc, la légende qui dit que le taureau est excité par le rouge comme le requin par le sang est fausse.
c'est le mouvement qui fait charger la bête. Alors, pourquoi ce rouge? C'est tout bête. La muleta ne se lave pas au karcher, mais à la main, à la brosse. Donc, elle est rouge pour cacher les traces de sang qui restent et pour pouvoir la réutiliser. Tiens, j'ai lu un truc dingue. Près de Séville, un taureau a été toréé en pleine nuit avec une cape fluorescente, et cela a très bien marché. Et il y a quelques années, au Madison Square Garden de New York, la société protectrice des animaux américaine avait imposé une muleta d'une autre couleur que le rouge. Le torero a demandé qu'on double son cachet et il a toréé avec une muleta verte à pois roses pendant toute la faïne. Ah, ok. Donc, il pourrait avoir des capes jaunes ou bleues. Bleues, oui, mais surtout pas jaunes. Ah bon? Et pourquoi? Comme le vert au théâtre, le jaune est la couleur bannie chez les toreros. Ils sont très superstitieux. La faute à Faustino Barajas. Dans les années 1930, il a été tué à Madrid, le jour où il a arboré pour la première fois du jaune. À ce moment-là, les toreros ont renoncé à cette couleur. Certains ont cependant le sens de la provocation. Par exemple, Resulín de Ubrique est arrivé avec sa voiture peinte en jaune et en costume jaune pendant la feria de Séville, où il a veillé à ce que sa voiture soit toujours bien en vue devant l'hôtel. Putain, tu es hyper calé! C'est à l'issue de la faena que le taureau meurt? Oui, sauf s'il est gracié, mais c'est rare. Je regardais les braves canassons avec pitié. J'avais peur pour eux. Je les imaginais déjà perforés par une corne. Mon sang se glaça. Plus loin, d'autres hommes en costume attendaient devant l'entrée de la piste. Là, ce sont les peones, Lise. Les matadors, tu veux dire? Non, leurs assistants. Ils sont là pour les sortir de mauvaises passes et les aider. Et le type qu'on doit interviewer, il est où? Pas encore arrivé. Il arrivera par la petite porte, là-bas. Là où tu as un attroupement d'aficionadas. Les groupies, là? Oui, pour certains fans, ils sont quasiment des dieux vivants. Tu parles. Des bouchers, oui. Bon, on fait quoi? On fait comme elle, on attend. Ortega sait que nous sommes là de toute façon. Il pourrait être à l'heure pour l'interview, il se prend pour qui ce mec? Et les taureaux, ils sont où? De l'autre côté du mur, dans les corrales. Tu veux qu'on essaie d'aller les voir? Surtout pas! Pour que je m'attache à eux, c'est pas la peine. Je regardais autour de moi. Les aficionados étaient tous endimanchés, comme pour une messe. Je pensais à la chanson de Brel, Les taureaux. C'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Au milieu de tout cela, je ne me sentais pas à ma place avec mon jean slim, mes Stan Smith et mon débardeur blanc. D'ailleurs, plusieurs femmes sur leur 31 me regardaient d'un œil réprobateur. Clocharde, voilà ce qu'elles devaient penser. Soudain, la petite porte indiquée par Paco s'ouvrit. Trois hommes en costume brillant, entourés par des sortes de gardes du corps, entrèrent dans le patio. Un brouhaha accompagna leur entrée. La foule était en délire. « Ce sont eux, Lise. »« Eux ?»« Oui, les matadors. Ils sont deux. C'est un mano à mano aujourd'hui. Le plus jeune, c'est El Carillo. Il paraît que c'est l'étoile montante. Le public l'adore. Et le second, c'est notre homme, Manuel Ortega. » La légende. L'habit de lumière d'Ortega était différent de celui de son adversaire du jour. Il était noir et or. Ce type avait la tête du parfait macho des années 1950. Les cheveux noirs gominés, une allure précieuse, le regard hautain. Il signait mécaniquement des autographes à ses groupies sans s'intéresser à elles. Filme, Paco, sans dire long sur l'ego du type. Paco bougonna un peu, mais filma. Les deux matadors se dirigèrent vers nous. J'avais sorti mon micro-enregistreur, pensant qu'Ortega s'arrêterait. Il n'en fit rien. Il se contenta de me jeter un regard dédaigneux et me désigna d'un signe de tête à l'un des hommes qui l'accompagnait. Ce dernier se porta à mon niveau et s'adressa à moi. C'était un bel homme d'une trentaine d'années. Brun, les yeux perçants, il parlait un français parfait,
avec un très léger accent espagnol. Il était surexcité et ultra sollicité par un tas de personnes qui ressemblaient à des officiels. TF1 ? Vous êtes le journaliste ?
Oui.
On peut procéder à l'interview ?
Oui, je vais répondre à vos questions. Je suis José Ramón Olano, l'apoderado d'Ortega.
Devant mon regard interrogatif, il précisa. Son impresario, si vous préférez.
Ah, très bien. Nous pouvons voir Monsieur Ortega ?
Non, les questions passeront par moi.
Mais c'est lui que nous voulons interviewer, pas vous.
Ortega ne donne jamais d'interview en direct. Il faudra écrire vos questions si vous voulez qu'il y réponde lui-même, et je ferai l'intermédiaire. Un peu plus loin, Ortega entra dans une toute petite chapelle que je n'avais pas remarquée auparavant. J'allais questionner l'apoderado, mais il avait déjà disparu, happé par autre chose. Je me tournai vers Paco, un peu désemparé.
Il fait quoi ?
Il prie avant d'entrer dans le ruedo.
Ils ne le font pas tous, lui oui.
Tu as vu le petit cul qu'il a dans son traje de luces ? Je croquerais bien dedans.
Le ruedo, c'est quoi ?
La piste des arènes.
Ah, ok ! C'est fou ça ! Il faut quasiment un glossaire pour y comprendre quelque chose.
Ça fait partie du charme de la corrida. C'est codé.
Ouais, si on veut.
T'as entendu ce que l'impresario a dit ? C'est hallucinant ! On va faire comment pour interviewer un type qui refuse de nous parler ?
Oui, j'ai entendu. Il faudra en rediscuter avec lui après la corrida. Là, je pense qu'ils sont sous pression. L'enjeu est énorme pour eux. Ortega est l'objet de beaucoup de critiques du Mundillo en ce moment. Et le petit jeune, là, El Carrillo, tire la couverture à lui, d'après ce que j'ai lu dans la presse spécialisée. Ortega ne va pas seulement se battre contre le taureau aujourd'hui. Il va aussi se livrer à un duel d'autorité avec El Carrillo. Sa suprématie est en jeu. S'il taurait bien, il y aura certainement moyen de lui parler.
J'espère, car sinon on replie le matos et on rentre à Paris. On ne peut pas faire un reportage dans ces conditions. J'appellerai la vestiaire.
Je suis d'accord avec toi.
Filme-le quand même à sa sortie de la chapelle. Ça fera des images, on ne sait jamais.
Ortega sortit de la petite chapelle. Son visage était impassible, ses gestes lents et gracieux, presque chorégraphiques. Même si je n'en dis rien à Pablo sur le coup, je dois admettre qu'il en imposait. Le mot « charisme » semblait avoir été inventé pour ce type arrogant. N'étant jamais entré dans une arène, n'ayant jamais croisé un torero, j'avais une image très folklorique et désuète de tout ce petit monde. Le sentiment d'un cirque ringard où les matadors amusaient la galerie dans leurs costumes ridicules. Ces préjugés venaient de s'écrouler. Notre homme croisa El Carrillo et tout à coup, ses yeux devinrent sombres. Il le défia du regard le temps d'un souffle. Ce genre de détail ne m'échappait pas. À l'évidence, c'était électrique entre ces deux-là. Puis il se dirigea vers le petit couloir fait de planches en bois qui séparait la piste des gradins et que Paco me désigna comme étant le callejón. Là, le matador plaça ses mains sur ses hanches et regarda le fameux ruedo, la piste, pendant de longues minutes. De loin, il me sembla qu'il continuait à prier.
Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette lecture. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réécouter l'ensemble de cette rubrique, tout comme toutes les émissions de la radio, vous pouvez vous connecter sur www.espritoccitanie.fr. À la semaine prochaine !